Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine sur Europe 1 de 9h à 9h30, tous les jours l'heure des pros et sur CNews jusqu'à 10h30. C'est un décret publié hier au journal officiel, décret qui est passé sous les radars de l'info, mais qui traduit une prise de conscience salutaire du gouvernement et de l'impulsion donnée par Gabriel Attal. Je dis souvent que j'aimerais bien dire... du bien de la Macronie, eh bien voilà qui sera fait. À partir de 2025, il faudra passer 9 mois en France et non plus 6 sur une année civile pour bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse, par exemple la prime à la naissance d'un enfant. Ce décret vise à limiter la fraude sociale et notamment les fraudes à la résidence détectées par les caisses d'allocations familiales, les CAF. Il y en aurait eu 6556 repérés en 2023 pour un montant de 97 millions d'euros contre 3374 en 2022. Le combat de la fraude sociale est un enjeu de finances publiques. On me dira que c'est une goutte d'eau dans un océan de triche, et c'est vrai. Mais ça traduit un état d'esprit. Il y a une volonté de faire bouger les choses. Et comme chacun sait, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Il est 9h. Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gabriel Attal sera à Nice aujourd'hui pour inaugurer un internat, pas n'importe lequel. Il s'agit d'une structure qui, pendant les vacances, doit accueillir les élèves en décrochage scolaire. Des stages de soutien seront notamment proposés. Et selon Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, c'est bien, mais maintenant, il est temps de passer aux actes. Écoutez.
On a l'impression que le Premier ministre dit des choses. C'est bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de passer aux actes. Or, ce que je constate, moi, sur le décalage entre le discours et les actes, c'est que dans le temps même où Gabriel Attal prononçait ses paroles volontaristes, le président de la République, lui, annonçait un Grenelle sur la violence des jeunes. Un Grenelle. Mais c'est le 53e Grenelle sur les mots français.
À Montpellier, la jeune Samara va reprendre les cours, mais à distance. Son état de santé ne lui permet pas pour le moment de retourner dans son collège. Je rappelle que Samara a passé 24 heures dans le coma au début du mois, après avoir été rouée de coups à la sortie de son collège. Les élèves mis en cause dans son agression se verront refuser l'entrée ce matin et passeront prochainement devant un conseil disciplinaire. Et puis l'autoroute A13 est toujours fermée ce matin entre Paris et Vaucresson, dans les deux sens. L'axe est fermé depuis jeudi soir à cause d'une fissure au niveau de Saint-Cloud et donc forcément ce matin, la galère continue pour les automobilistes. Écoutez.
Là, on va galérer pour arriver sur Paris. Donc là, j'ai mis mon GPS, on a 40 minutes pour arriver. Donc ça va être la galère pour arriver au travail, quoi. Mais on ne savait pas que ça va être fermé comme ça. Ça va être la galère, mais bon, on n'a pas le choix.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chana, nous sommes avec Elisabeth Lévy ce matin, avec Georges Fenech, avec Philippe Guibert, avec Nathan Devers et avec Gauthier Lebray. On sera en direct dans une seconde avec Montpellier, Charles Lhuillier qui est revenu sur l'opération PlaceNet à Montpellier quelques jours plus tard et on pourra également parler de Samara. Mais, Jacques Vendroux est là alors que nous ne sommes pas vendredi. Jacques Vendroux.
Comment
que se passe-t-il? Ça va très bien. Bonjour Jacques Vendroux, pourquoi êtes-vous là? Que se passe-t-il? Le président de la République va jouer au football.
Exactement.
Et c'est pour ça. Et vous trouvez que c'est une information suffisamment importante pour qu'elle ouvre l'heure des pros?
Évidemment que c'est important.
Et il va jouer quand?
Il joue mercredi à 17h, à plaisir, je confirme, au profit des pièces jaunes.
Et il va jouer, oui, mais alors la dernière fois, vous l'avez laissé marquer les buts, il tire les pénalités.
Bon, arrêtez. Il y a eu un pénalty complètement valable, il a marqué, il a trompé le gardien de but. Et c'est un fait de sport qui est extrêmement important.
Donc il va jouer mercredi. Bon, il sera présent sur le terrain.
Il sera présent sur le terrain.
Avec évidemment le variété.
Le variété
pour
les Club de France.
Oui, mais personne n'ose l'attaquer, personne n'ose le tacler.
Mais arrêtez, mais c'est pas vrai.
J'ai vu le match.
C'est un bon match de football.
Regarde, bon, attendez, vous voulez qu'on voit le père. Alors là, je prends la France du foot à témoin. Donc déjà, là, j'ai l'impression que quand même, ça c'était la dernière fois qu'il avait joué.
Là, c'était à Poissy, le 14 octobre.
C'était le 14 octobre 2021. Voilà, et je voudrais voir qu'on voit le pénalty qu'il avait inscrit, parce que je ne sais pas si on n'a pas ce pénalty. Bon, en tout cas, il est en forme, le président de la République.
Il s'entraîne tous les week-ends.
Oui.
Il est bon. je peux vous dire qu'il est en forme, il est bon.
C'est une information.
Europe 1, c'est News. Je vous confirme. C'est sur tous les réseaux. Bon. Là, je vous le confirme.
Et alors, il va jouer contre qui?
Alors, je vais vous donner la composition de l'équipe, quand même, important.
Oui. Jean-Luc Mélenchon.
Non. Dans les buts, Lehmann. Le gardien légendaire.
Oui, mais personne ne connaît.
Lehmann.
Oui, non, mais personne ne connaît Lehmann.
Bon. À droite, Carambeu. Dans l'axe central, Blanc, De Sailly. Sur le côté gauche, Laure Boulot. Milieu de terrain défensif.
Oui.
Didier Deschamps, Emmanuel Macron. Pas mal, quand même. Ah. De la gueule.
Oui.
Milieu de terrain offensif, ils sont trois. Eden Hazard, qui vient exprès de Madrid. Robert Pires et une de vos idoles, Johan Niskens. Qui vient jouer quelques minutes. Il a joué à l'Ajax Amsterdam.
Il a quel âge?
Il a 70 ans. Il offre à la France ses dernières minutes de son immense carrière. C'est un clin d'œil. Et devant Didier Drogba, en toute simplicité.
Écoutez,
remplaçant Ravanelli, Wenger, Niang, Adebayor, Eto, Diouf, Gires, Van Buyten. Voilà. Et il y aura des personnalités de la société civile qui vont jouer dans les deux équipes avec nous. Voilà.
D'accord.
Au profit des pièces jaunes.
Très belle feuille de match.
C'est bien, non?
Bon, écoutez...
Qu'est-ce qui se passe?
C'est à quelle heure?
17h.
Bon, c'est à 17h.
Bernard Giroud, à plaisir.
Combien de temps il jouera?
Normalement, il part pour jouer tout le match.
Bon, normalement. J'imagine qu'il y aura du monde et de la sécurité.
Absolument.
Bon, merci.
Merci à tous.
Merci, cher Jacques Vendroux.
Bonne émission.
Je vous en prie. On vous retrouve évidemment vendredi pour Vendredi Vendroux. Je ne sais dans quelle tenue vous serez, mais la France entière parle de vos prestations.
Tout est prêt.
Bon, bien évidemment. Montpellier. L'opération PlaceNet XXL se poursuit à Montpellier. Un mois après le début de l'opération mobilisant plus de 55 000 policiers et gendarmes, le gouvernement se félicite d'avoir mené 4 000 interpellations et déféré 600 trafiquants. Mais sur le terrain, dans certains quartiers, comme celui d'Aiguelongue à Montpellier, eh bien, les dealers sont toujours présents. On est avec Charles Lhuillier. Bonjour Charles. On va écouter quelques interviews que vous avez faites des dealers. Ce matin, à 6h30, c'était l'ouverture du journal d'Europe 1. J'ai trouvé ça tellement intéressant que je vous ai appelé et que vous allez pouvoir mettre en perspective ce qu'on va écouter. On va d'abord écouter Younes, qui est le chef des guetteurs, si j'ai bien compris, Charles, hein, et qui parle... Ah, là, on ne vous entend pas, malheureusement. On vous entend, Charles ?
Manifestement... Le coordinateur de ces dealers, effectivement, Younes.
Voilà, c'est celui qui gère les dealers. Écoutez ça, parce que ça fait froid dans le dos.
Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. T'as vu, je suis payé 150 euros par jour. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour. Ben, je fais le calcul, 150 par jour, après 4000 euros par mois.
Et tu vas à l'école ou comment ça se passe?
Non, j'ai arrêté tôt l'école. Ici, comme je t'ai dit, t'as eu ta voiture, tu la laisses, tu laisses les clés, ça bouge pas, il n'y a pas de vol.
L'opération PlaceNet, alors?
Ouais.
Franchement,
ça a servi à strictement rien du tout, je te dis la vérité. Ouais, eux, ils viennent, ils bloquent dans le charbon, dans le four, quoi, t'as vu? Mais en fait, nous, derrière, on a des livraisons, nous, t'as vu? On n'a pas que, le point de deal, t'as vu? On a des livraisons, on voit par colis, t'as vu, tu vois? Il n'y a pas que du surplace, quoi. PlaceNet, franchement, je vous dis la vérité, ça nous a pas fait mal, ça nous a rien fait. PlaceNet, ça sert à rien, franchement, strictement à rien.
Bon, alors, c'est vrai qu'il y a peut-être, Charles, chez ce jeune homme, une volonté de fanfaronner, peut-être de, de ne pas tout à fait non plus rapporter la réalité du terrain. Comment interpréter ce qu'il vous a dit?
Alors, il y a deux éléments pour moi, Pascal, qui se dégagent. D'abord, effectivement, comme vous le dites, cette volonté de fanfaronner, de défier l'autorité, de dire finalement, et pardon, je vais être vulgaire, hein, mais de dire aux autorités, on est là, on continue, malgré ce qu'il s'est passé, malgré l'opération, on est là, on continue et on vous emmerde. Voilà, c'est ça la réalité du terrain. Et puis, l'autre chose qui pourrait se dégager de ce témoignage que vous venez d'entendre, c'est plus généralement... et plus basiquement l'envie d'afficher sa réussite avec des éléments que Younes donne qui sont réels. Hein. Voilà, je pense que quand il nous dit qu'il paye ses dealers 130 euros par jour, c'est une réalité. J'ai pu le confirmer avec bien justement les guetteurs, les choufs, comme on dit, hein, qui sont sur le terrain devant les immeubles. Et puis lui, lorsqu'il dit qu'il gagne 150 euros par jour, à peu près 4000 euros par mois, ça ne me semble pas délirant comparé aux chiffres d'affaires gigantesques hein, de la drogue dans ce quartier d'Aiglon tous les mois.
Alors, autre passage, autre interview que vous avez réalisé, c'est le guetteur, cette fois. Alors, entendez bien la voix. Lorsque Marine Lançon, tout à l'heure, m'a fait entendre ce son, j'ai cru que la voix était déformée, pour tout vous dire. Ce qui nous arrive parfois. Ben non, en fait, c'est la voix d'un enfant. Et c'est ça qui est sidérant dans ce que vous allez entendre.
100 euros par jour.
Ah oui ?
Ouais.
Et pourquoi tu fais ça ?
C'est comme ça. On est des employés, c'est un point de deal. C'est fait pour les clients, ils achètent et voilà.
Tu sais, il y a eu l'opération Placenet, là.
Ouais, elle part au Placenet, on s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite. On s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Et nous, les guetteurs, on est fait pour ça, pour crier « Ah, quand il y a la police ».
Mais t'as quel âge, en fait ?
Moi, j'ai 14 ans, il y a des jeunes de 20 ans, des jeunes de 16 ans, voilà.
Placenet, t'en penses quoi, l'opération Placenet ?
L'opération Placenet, je vous dis, il va servir à rien parce que le point de deal sera toujours ouvert. Il y a toujours des toxicomanes qui voudraient leur dose. Et voilà, et nous, les guetteurs, eh ben, tant que ça nous paye, voilà. Même dans les autres charbons, ce soit à Figueroles, à la Grappe, c'est tous les charbons va ouvrir.
C'est quoi les charbons ?
Les charbons, c'est les terrains, c'est les points de deal. Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire, monsieur ? Les places nettes, ça sert vraiment à rien. La police, on s'en bat les couilles d'eux, monsieur. Il n'y a que des clients cachettes, monsieur, c'est ça.
En fait, voilà. Mais quand ils viennent, vous partez ?
Ouais, quand il y a la police, ouais, on part. Et oui, c'est ça. C'est le chat et la souris. C'est comme ça, frérot.
Bon, alors évidemment, moi j'ai pas envie de mettre en accusation le ministre de l'Intérieur et ni les services de police parce que tout ça est extrêmement compliqué et que tout ça ne peut pas se faire en 8 jours. J'ai pas non plus envie d'accuser ce jeune homme parce que je ne vais pas dire qu'il y est pour rien, mais il a 14 ans et vous voyez bien dans l'état que manifestement il y a quelque chose qui a cloché dans l'éducation. Oh. Mais la seule question, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et ce jeune homme, ce gosse, cet enfant, Charles, qui d'ailleurs est, voilà, qui parle de ça sans se rendre compte tout à fait des conséquences de ce qu'il fait.
Il a un discours très élaboré, le jeune. Là. Pas bien ce qu'il fait, je trouve.
Oui,
attention, hein. Enfin, il est blessé là. Ah, il y a un petit moment de faiblesse.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais il y a des moyens, vous le savez qu'il y a des moyens.
Mais ça, c'est autre chose. Mais de dire que ce que je viens d'entendre est élaboré, je ne dirais pas ça.
Il a un discours de 14 ans, il s'exprime très très bien.
Oui.
Il définit son travail.
Oui.
C'est un commerce comme un autre.
Oui.
Quand la police vient, on se retire, mais on revient,
oui.
Il y a des toxicomanes.
Oui, tout ça est vrai.
Ah, mais c'est vrai.
Tout ça est vrai.
C'est vrai tant qu'on ne l'aura pas
extrait
de son lieu. C'est-à-dire,
tout ça est vrai. Mais ce qui nous importe, c'est vraiment de témoigner de la réalité. Moi, je passe mon temps à le dire. Le métier que nous faisons
n'est pas une fatalité, ce que je suis en train de vous dire.
Mais elle, c'est pas une fatalité, mais si, précisément, puisqu'on ne prendra jamais les décisions.
Si, bah, dans votre édito, vous avez dit ce qu'on veut, on peut, à condition que ça.
Voilà. Mais vous savez très bien les décisions qu'il faudrait prendre et personne ne les prendra.
Non, mais là, par exemple, M. Attal va aller à Nice, je pense qu'on va en parler, pour dire on va faire des internats.
Oui.
Mais sur le mode volontaire.
Oui, donc.
Tant qu'on ne contraindra pas les familles.
Mais ce gosse de. Je vous ai déjà dit,
il faut
le deal, tu fais un deal une fois, c'est 50 de prison, ça vous va ?
Mais c'est ce non. Que
voilà.
Je suis en train de vous
dire. Mais personne ne le fera. Personne ne le fera. Bon, attendez, parce que c'est Charles Lhuillier, après je vous donne la parole. Charles, ce jeune homme, moi, voilà, je ne veux pas dire qu'il me fait pitié, comment dire, il y a quelque chose qui a cloché, c'est ce que je dis quand j'entends un enfant de 14 ans comme ça. Je suis pas sûr, c'est pas lui le responsable, c'est toute la société qui doit se pencher sur ces cas-là et prendre des décisions, mais drastiques sans doute.
Alors, pour vous répondre, Pascal Pro, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image, hein, parce que c'est un jeune homme frêle, petit, qui doit mesurer 1m60, mais qui, dans son discours, alors discours élaboré, je ne sais pas, mais en tout cas, dans son discours, il est au courant de ce qu'il doit faire, parfaitement aguerri aux différentes missions hein, qu'on lui a confiées. Lui, ce qu'il fait, c'est que dès midi, il est là, devant sa barre d'immeuble, en réalité.
Mais Charles, pardonnez-moi, son père et sa mère, est-ce que vous avez pu avoir des informations? Son père et sa mère sont ensemble, il ne va plus à l'école, comment est-ce possible?
Voilà, alors oui, non, mais ça, il ne va plus à l'école, mais j'ai envie de vous dire, on n'est plus à sa près quand on entend ça. Voilà, et il est évident que ce jeune de 14 ans ne va plus à l'école, ses parents... Il ne m'en a pas parlé en réalité, ça signifie que ça ne fait pas partie forcément de ses préoccupations. D'après ce que j'ai compris, il fait partie d'une famille nombreuse, environ 5 ou 6 enfants dans le foyer, et j'imagine en grossissant le trait que ses parents en réalité ont d'autres choses à faire malheureusement et d'autres problèmes bien plus graves que finalement le destin de cet enfant. Alors cet enfant, il est tout petit, il est frêle, il se fait surnommer mitraillette dans le quartier, hein, voilà, hein, je plante le décor, et lui, son travail, c'est à midi d'être en bas de son immeuble, à minuit, hein, voilà, il a 14 ans et il est en bas de son immeuble jusqu'à minuit. Et lui, son travail, c'est de crier « Ara ». Ara, ça
c'est ce qu'il a dit. Bon, Charles.
En arabe. Et c'est en fait, quand la police arrive, ben, il est son boulot pour 100 ou 120 euros par jour, c'est d'alerter les grands du quartier quand la police fait des rondes. Voilà, c'est ça son travail. Et il le fait et il est content. Et il m'a dit que ça lui permettait en réalité de s'acheter des vêtements ou des choses comme ça. Voilà.
Bon, merci Charles. Évidemment, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Montpellier. Ça fait plusieurs fois que le public de CNews et d'Europe 1 vous découvre. Et pour la qualité de vos reportages et de vos interviews, un mot juste sur Samara, puisque Samara, on a appris aujourd'hui que cette jeune femme qui avait été tabassée, ce qui est quand même extraordinaire, elle suit des cours à distance, et ceux qui l'ont tabassée, si j'ai bien compris, sont de retour au collège.
Non.
Alors, non. Évidemment, ils n'ont pas le droit de retourner dans l'enceinte de l'établissement. Eux, en fait, ils seront convoqués dans les jours qui viennent à un conseil de discipline. Voilà.
Conseil de discipline. Donc,
terminé. Avec leur ennui judiciaire, rapidement pour vous dire également qu'il y a.
Mais le conseil de discipline n'a toujours pas eu lieu, c'est ça qui est extraordinaire quand même. Mais bon,
voilà,
mais
y a pas de... c'était les vacances. Bon. Voilà, et donc pour tout vous dire, deux enquêtes parallèles qui vont se dérouler, l'enquête administrative au sein du collège qui poursuit, qui a été prolongée parce qu'on n'avait pas réussi à avoir assez de conclusions, et puis évidemment en parallèle l'enquête judiciaire qui elle aussi continue. Voilà.
Merci beaucoup Charles, et vraiment merci. Et puis je vais donner la parole évidemment dans une seconde à nos amis. Je ne vous avais pas encore parlé de Kenji Girac parce qu'on voulait la confirmation. On va en parler dans une seconde, mais les gendarmes sont appelés à 5h30. C'est une source proche du dossier de CNews qui nous le confirme. Les gendarmes ont été appelés à 5h30 sur une aire de grand passage de gens du voyage à Biscarrosse. Quand ils arrivent, Kenji Girac a reçu une balle dans la poitrine. Il est évacué vers le centre hospitalier de Bordeaux avec pronostic vital engagé. Pour l'heure, les circonstances des blessures restent à déterminer. Les enquêteurs doivent déterminer si c'est lié à l'intervention d'un tiers ou une tentative de suicide. C'est ce que me dit, je découvre en même temps que vous, et Sandra Buisson va nous préciser ces informations, bien évidemment. Et c'est pourquoi, tant que nous n'avions pas la confirmation par notre propre service police-justice, nous n'en avions pas parlé à 9h. Je vous donne vraiment la parole tout de suite. Kenji Girac, c'est le chanteur, oui. Et pronostic vital engagé. Écoutez ce qu'a dit le préfet, cette fois du Rhône, me dit Marine Lançon, sur... il était préfet de police des Bouches-du-Rhône, pardonnez-moi. Voici ce qu'il a déclaré sur l'opération Place Nette.
C'est un engagement total des policiers depuis le 18 mars. Un engagement total qui a commencé avant et qui se poursuit. Donc aujourd'hui, on a des résultats et des résultats. Notre objectif, c'est que ces résultats soient durables, qu'on obtienne un changement de physionomie effectif pour les habitants dans les cités, dans le centre-ville, sur l'ensemble du département. Le travail que l'on mène, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste de l'occupation du terrain avec des policiers qui sont présents. C'est très important, ça rassure les habitants, ça fait fuir, ça étouffe le trafic et ça évite que ces trafiquants continuent à prospérer. Mais C'est un travail beaucoup plus complet que ça que nous menons. On tape à tous les niveaux du trafic. On tape les responsables, les enquêtes judiciaires. Et c'est vraiment l'intérêt de ces opérations PlaceNet XXL qui ont été menées. C'est qu'on a mené des enquêtes judiciaires au long cours où on met sous les verrous les principaux responsables. L'opération PlaceNet XXL, c'est 49 individus qui sont sous les verrous après ces 3 semaines d'enquête.
Bon. Je vous laisse la parole qui, sur ce sujet, qui veut intervenir, Elisabeth Lévy.
Oui, je voulais... D'abord, vous avez posé une question, je trouve, vertigineuse et intéressante, qui est celle de la responsabilité. Jusqu'à quel point est-on responsable de ce qu'on devient ? Non, mais vous savez bien qu'il y a aussi une reproduction de la violence et d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'excuse, si vous voulez, mais ça pose une question à laquelle on n'a pas de réponse. Mais c'est quand vous dites « on sait ce qu'il faut faire ». Écoutez... Je vois pas un pays dans le monde, à part effectivement les pays qui emploient des méthodes vraiment très violentes, comme de pendre les trafiquants, etc., etc. Je ne connais, et de les enfermer sans grand procès, ou les consommateurs, ou ce que vous voulez. Je ne vois pas un pays dans le monde, si vous voulez, qui réussit à enrayer comme cela la question. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde
donc,
vous le dit.
Donc, c'est formidable.
Non, j'ai pas dit non. Laissez-moi aller jusqu'au bout.
Bah donc, s'il y en a pas, faut précisément. Ou alors, on dit, on s'en fiche. Ou prendre les médicaments.
Non,
puisqu'il
laissez-moi.
Il n'y a pas d'autre système.
Non.
Vous me dites.
J'essaye de vous dire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a que c'est aussi une bataille qui se joue d'abord essentiellement entre des États et des organisations.
Non, mais arrêtez.
Mais bien sûr que si.
Mais arrêtez.
Mais bien sûr que si.
Mais non. Mais écoutez, mais en fait, vous êtes en train de me dire ce que je pense absolument, c'est que hormis une manière forte, vous ne pouvez pas régler le problème. C'est exactement ce que je pense.
Mais jusqu'où ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'où vous allez. Mais parce moi, que là, vous avez dit des choses déraisonnables. Des fois, vous dites qu'il faut enfermer les gens à vie. Là, vous avez dit 5 ans.
Mais c'est
donc
très
ça
simple.
Ça me paraît plus raisonnable.
C'est ce que prévoit la loi. Hein.
Mais demain, vous dites tout. Première fois que vous prenez un deal, 5 ans.
D'accord.
Deuxième fois.
C'est la loi, ça ?
Non, c'est vous la mettez en place.
Non, je crois
vous
que
dealez, c'est la loi. Vous dealez, vous êtes pris 5 ans. Première fois.
D'accord.
Deuxième fois, 10 ans. Troisième fois, vous sortez plus.
Donc, c'est pas appliqué.
Bah, je peux vous dire que ça va être.
Ça va
arrêter la drogue.
Ça, c'est pas déraisonnable.
Et pour les clients, vous achetez de la drogue ? Une fois, sanction. Deux fois, et je peux vous dire que ça va changer. Mais comme personne ne le fera, parce qu'effectivement, personne n'aura envie de le faire. Bah, on vivra avec ça. Et puis, les mœurs seront peut-être corrompues. Et puis, voilà.
Et vous croyez que vous pouvez supprimer la drogue ? Je vous pose cette question sincèrement.
Je pense qu'on peut. En Corée du Sud, il n'y a pas de drogue.
Pourquoi ?
Parce que tu n'as pas le droit d'en consommer. Et même si tu en consommes à l'extérieur, tu es quasiment en taule toute ta vie.
Mais sur les 4 milliers d'arrestations, vous les avez citées en début.
Évidemment qu'on peut, c'est tout. Mais après, ce qu'on veut, c'est tout.
Sur les 4 milliers d'arrestations.
Moi, je ne crois pas.
Ou alors, on considère que ce n'est pas très grave. Mais alors qu'on ne nous bassine pas, c'est tout. Moi, je demande toujours de la cohérence, qu'on ne nous bassine pas.
Je ne crois pas que vous pouvez la supprimer. Je crois que vous pouvez.
En Corée du Sud, ils l'ont réussi. Ils ont supprimé. Voilà. Et El Salvador, manifestement.
Il y a des sociétés sans drogue.
Vous n'allez pas vous satisfaire de 50 régions.
J'ai pas dit que je m'en satisfais.
À Marseille, à la Kalachnikov.
Je pense qu'appliquer la loi, c'est une bonne chose.
Mais oui, mais la loi, elle est.
Mais si, vous venez de le dire.
Souvenez-vous, les juges avaient dit le combat est perdu, les juges de Marseille.
Et bien sûr.
Ils se sont fait
en commission d'enquête parlementaire.
Je trouve que.
Vous en souvenez pas ?
Pardon, excusez-moi, je ne sais plus.
Magistrat, le procureur, les.
Bon, Kenji Girac,
là, l'avait fait.
Une petite remarque. Oui. C'était intéressant de mettre en perspective les deux documents audio, le préfet qui parle avec cet enfant de 14 ans. C'est terrible d'entendre un enfant qui est au travail, surtout dans ce genre de métier, avec mille guillemets autour du mot. Il a dit une phrase qui est, en fait, je pense, la phrase la plus réelle sur le sujet. Il a dit « De toutes les manières, il y aura toujours des toxicos pour nous acheter de la drogue. » C'est ça, ouais, le c'est réel. Ça. Elisabeth, vous avez raison, je trouve, sur ce point-là. Il n'y a pas de société sans drogue. À moins d'employer des méthodes salvadoriennes, de mettre en prison tous les gens qui ont des tatouages. À part en faisant cela, il y a nécessairement de la drogue dans une société. On s'en réjouit, on s'en lamente, c'est pas le sujet. Moi, je ne suis pas pour une sorte d'hygiénisme d'État.
Non.
En revanche, je pense qu'il faut se poser la question, mais je sais que c'est un de nos rares points d'accord du décalage entre l'état de la législation et l'état de la drogue dans notre pays. C'est absurde.
Je remarque une chose, c'est qu'il y a les experts évaluent à 240 000 le nombre de personnes impliquées dans les trafics de drogue aujourd'hui.
C'est-à-dire, c'est Philippe Guibert.
C'est autant qu'une grande entreprise nationale. 240 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros.
Donc, ça, c'est le trafic.
Le trafic de drogue en France, tout confondu, c'est 240 000 personnes qui sont impliquées à des degrés divers.
C'est pas rien.
Mais c'est énorme.
Et mais il n'y a pas les consommateurs dedans?
Non, je parle des gens qui participent d'une manière ou d'une autre au trafic.
C'est une grosse boîte.
C'est l'équivalent d'une grande entreprise nationale.
Bien sûr.
L'équivalent d'Airbus.
Et donc, je pense qu'à côté de la logique répressive, parce qu'avant qu'on mette 240 000 personnes en prison, je pense qu'il va se passer un petit peu de temps, je pense qu'il faut qu'on joue sur la logique économique de ce trafic, parce que 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le gamin de 14 ans tout à l'heure, et c'est ce que disait Nathan, dira, mais il y a toujours des clients. Et donc, tant que cette activité sera rentable à ce point, il sera extrêmement difficile de lutter contre les trafics.
On va marquer une pause, on va appeler à 9h25 Cyril Hanouna qui, comme nous, est sur le coup de cette information de Kenji Girac, puisque je sais que Cyril est très ami avec lui, et pour tout dire, j'étais en train de textoter avec Cyril à l'instant, et je pense qu'on va pouvoir l'appeler à 9h30. Sandra Buisson, vous nous donnerez évidemment cette information que nous ne donnions pas à 9h parce que nous attendions la confirmation du service police-justice que vous représentez ce matin. On va en parler vraiment après la pause, mais je salue Thomas Hill qui est de retour ce matin et qui, je pense, va évidemment évoquer cela, bien sûr, dans quelques secondes dans son émission. Bonjour Thomas Hull, heureux de vous retrouver.
Bonjour Pascal, très heureux de vous retrouver aussi. Et oui, on va en parler, bien sûr, dans un instant. Bonne émission.
Et sous le coup, évidemment, de cette information qui nous a fortement émus ce matin, Kenji Girac, qui est le pronostic vital et engagé, il a reçu une balle dans la poitrine sur une aire d'autoroute. On marque une pause et nous revenons dans une seconde. Kenji Girac a été blessé cette nuit, tôt ce matin plus exactement. C'est une des informations qu'on va développer dans une seconde, Chana Lousteau.
On vient de l'apprendre, Kenji Girac a été blessé par balle cette nuit au niveau de la poitrine. Le chanteur de 27 ans a été transporté en urgence à l'hôpital de Bordeaux. Aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé. Il a été blessé sur une aire de communauté de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Pour l'heure, on ne connaît pas les circonstances de ses blessures. Pascal sera en direct dans un instant avec Cyril Hanouna. Le propriétaire du manège qui a causé la mort d'une femme de 27 ans à Blois est toujours en garde à vue ce matin. La famille de la victime a porté plainte contre X pour homicide involontaire. Le manège, lui, a été placé sous scellé pour expertise. La ville précise que chaque année, des contrôles sont effectués pour vérifier la conformité des installations. Et puis la vaccination des Français est en hausse en 2023. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, les chiffres de l'année dernière sont meilleurs que ceux de 2022. En revanche, on peut mieux faire sur certains vaccins, comme celui de la rougeole.
Merci Chana, je salue Sandra Buisson et je la remercie de nous avoir donné une information essentielle. Le pronostic vital de Kenji Girac n'est plus engagé.
Effectivement, il est toujours pris en charge à l'hôpital de Bordeaux. Effectivement.
Et on va être avec Cyril Hanouna. Cyril, merci d'avoir réagi aussi vite. Kenji Girac est l'un de vos amis. Je rappelle qu'il est chanteur, guitariste. Il est né en 1996, donc c'est un jeune homme d'une certaine manière. Il a gagné la saison 3 de The Voice, la plus belle voix, en 2014. Il connaît le succès dès son premier titre avec Color Gitano. Il a depuis publié 5 albums ainsi qu'un album live. Et c'est un de vos amis intimes, Cyril.
Alors, c'est... Moi, j'ai craqué pour lui quand je l'ai vu dans The Voice. Ensuite, on s'est vu plein de fois. J'ai fait des spéciales avec lui. C'est vraiment, on s'appelle toujours. Voilà, c'est voilà, je le considère dans le métier comme mon petit frère. Après, je le vois pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait plein d'émissions avec lui. Et quand j'ai appris ça ce matin, c'est vrai que là, on est tous, avec les équipes, on est tous choqués parce que c'est vraiment un proche. Et on a eu la nouvelle un instant que quoi, son pronostic vital n'était pas engagé. Mais bon, là, on est tous abasourdis et c'est vrai qu'on se dit, on l'aime. C'est un type exceptionnel. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable qui est toujours souriant, toujours prêt à aider tout le monde, qui est tellement heureux de ce qui lui est arrivé, de ce succès incroyable et fulgurant qu'il a eu, en quelques années. Lui, là, il est arrivé à The Voice, il avait 18 ans. Il s'y attendait pas du tout à avoir une telle carrière. Il a enchaîné tube sur tube. Il fait des featuring avec tout le monde. Il chante très souvent avec Vianney aussi, qui est un type exceptionnel. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on est tous inquiets. Et on espère que Kenji va s'en sortir. On essaie aussi de savoir ce qui s'est passé. Donc là, nos équipes sont dessus pour savoir réellement ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Oui.
Vous n'avez pas eu d'informations particulières ces dernières secondes?
Non, ni ces dernières secondes, ni je connais même bien les gens de son entourage qu'on va essayer de contacter, mais bon, voilà, on n'a pas eu même vent ces derniers jours de problèmes avec certaines personnes, rien du tout. Vraiment, Kenji, c'est quelqu'un qui est sans problème. Hein. C'est un amour de mec qui voilà, il pense qu'à donner du bonheur aux gens, à faire son métier. Il est tellement heureux de ce qui lui arrive que c'est vraiment un garçon qui je sais qu'il s'était fait agresser et voler sa voiture il y a ça quelques mois. On s'en rappelle, on en avait parlé nous également dans notre émission. Je me dis c'est vrai que là c'est beaucoup plus grave. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas on est tous très très tristes et on espère qu'il va s'en sortir, c'est le plus important.
Et effectivement, l'information qui est arrivée de Sandra Buisson, le pronostic vital n'est plus engagé, elle est quand même essentielle. Je vous remercie grandement. Merci. Cyril, on vous retrouvera évidemment ce soir dans Touche pas à mon poste. Et toutes les équipes de CNews ont travaillé bien sûr aujourd'hui pour avoir de plus amples informations. Sandra Buisson, qu'est-ce que nous pouvons dire ce matin à 9h35?
Donc, les gendarmes sont arrivés à 5h30, donc en début de matinée aujourd'hui, sur une aire de grand passage de gens du voyage à Biscarros. Ils ont été appelés pour un homme blessé. Quand ils arrivent, Kenji Girac a une balle dans la poitrine. Donc il a été évacué très rapidement vers le centre hospitalier de Bordeaux avec un pronostic vital engagé au moment où il a été pris en charge. Son pronostic vital n'est plus engagé. Les médecins ont réussi à faire en sorte que son état s'améliore. Il est toujours pris en charge au centre hospitalier. Pour l'instant, les circonstances qui ont amené à cette blessure restent à déterminer. Les enquêteurs doivent déterminer si c'est lié à l'intervention d'une tierce personne ou s'il peut s'agir d'une tentative de suicide. Deux unités de gendarmerie sont sur le pont pour élucider cette affaire. La brigade de recherche Parentis en borne et la SR de Pau, la section de recherche.
Tentative de suicide, dites-vous?
C'est ce que nous remontent les personnes à qui l'on a parlé. Alors peut-être y a-t-il des témoignages sur place qui évoquent cette thèse, mais en tout cas, ça fait partie de ce que vont devoir déterminer les enquêteurs.
Bon, bien sûr, tout cela, très grande prudence, et c'est une prudence que nous respectons à la lettre, j'ai envie de dire, sur l'antenne de CNews. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle à 9h, alors que cette information circulait déjà, nous ne l'avons pas donnée. Nous avons des process qui sont en place, qui sont extrêmement rigoureux, ce qui est la moindre des choses sur des affaires aussi importantes. Et tant que le service police-justice, que ce soit avec Sandra ou avec Noémie Schulz, n'a pas validé les informations, nous ne les donnons sur des affaires aussi importantes jamais. Donc, merci Sandra, évidemment, de ces précisions. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire à ce moment de la matinée, puisque par définition, l'enquête et ses prochaines heures nous donneront sans doute davantage d'éléments là-dessus. Merci beaucoup, Sandra. On a donc terminé avec le sujet drogue, si j'ose dire, mais le chiffre que je retiens, c'est le chiffre de Philippe Guibert. 240 000 personnes.
Et, ouais, et des millions de consommateurs.
Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites pour les consommateurs? Parce que les consommateurs, parfois, ça peut être... vos enfants, votre femme, pourquoi pas, si vous en avez, votre mari, pourquoi pas, votre grand-mère, je ne sais pas, mais bon, non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la solution?
La prison, ce n'est pas la solution.
Non, rien. Ah oui. Mais c'est quoi alors?
Non, mais c'est prévu.
On
ne
va pas mettre ma grand-mère en prison.
Non, c'est quand même prévu par.
C'est pas une bonne chose.
1970.
D'autant que la pauvre.
C'est un problème de santé. Plus de ce monde. C'est un problème de soins. C'est un problème de prise en charge de consommateurs. C'est un malade. C'est un toxicomane.
Non, ce n'est pas un malade. C'est pour ça. Mais non.
C'est un problème de santé.
Mais non,
des drogues.
C'est pas...
Ça dépend des drogues.
Quelqu'un qui a.
Mais oui, vous pouvez pas parler de la drogue en général.
C'est quelqu'un qui est en danger. Les overdoses, ça existe.
Oui, c'est pour ça que je.
Mais il y a des cas particuliers.
En fait, c'est pour ça que j'ai du mal parfois avec les mots. Bon. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, des amis, etc., qui fument de temps en temps un pétard. Oui, ces gens-là ne sont pas des malades.
Non.
Mais l'héroïnomane est un malade. Hein.
Mais oui, mais ah oui, qu'est-ce voilà. que vous en faites ?
Vous voulez que je vous rappelle Pierre Palmade, par exemple ?
Bah, Pierre Palmade est un malade, typiquement.
Mais que Pierre Palmade, il n'y a pas de sujet
pas
là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui fument un joint même par jour, qui ne sont pas des malades. En tout cas, ils peuvent être accros, bon, ou tout le monde est malade. Bon, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là ?
Ben, ces gens-là, il faut, à mon avis, il faut une politique déjà de communication et d'information qui n'existe pas dans notre pays, comme pour l'alcool. Il faut rappeler ce que c'est que le cannabis. On ne sait pas, les gens ne savent pas que le cannabis...
Et c'est marrant, politique, vous critiquez la com' tout le temps. Et là, ce qu'il faudrait faire en permanence, c'est des campagnes. Non, je parle
de l'information du public, comme on l'a fait pour l'alcool. Il faut faire une véritable information sur les effets du cannabis.
C'est très efficace, ça, ouais, c'est super.
Boire ou conduire, tout le monde s'en souvient, ça a marché, ces campagnes.
Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui a changé pour boire ou conduire ? C'est la répression. Enfin, Georges, c'est la répression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Le fait de conduire sous l'emprise de produits stupéfiants, c'est un délit qui est plus...
Je suis d'accord avec vous.
C'est une comparaison intéressante parce que, je le dis, moi je ne prends pas de drogue. Je vais dire quelque chose qui peut donner l'impression que... Donc je prends
du chocolat.
L'alcool. Oui. On a encadré la consommation d'alcool. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'interdire la consommation d'alcool. Oui. Il y a une hypocrisie française sur le sujet. Tout le monde prend de la drogue dans toutes les strates de la société, chez les politiques, dans toutes les strates de la société.
Tout le monde ne prend pas de la drogue.
Dans tous les milieux sociaux.
Mais arrêtez, tout le monde.
Il y a 5 millions de consommateurs dans tous les milieux sociaux. C'est ça ce que je dis.
Pardonnez-moi, on est ici. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint de votre vie, Philippe Guibert ?
À l'âge de 20 ans, ouais.
D'accord. Georges Fenech. Bon, vous.
Moi, je ne prends pas de drogue.
Jamais. Bon, Gauthier.
Jamais.
Bon, ça ne m'étonne pas.
Ça m'étonne.
Bon, voilà. Dans et moi, je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie.
Juste, par exemple, dans le monde politique, ce n'est pas un tabou. Les gens se droguent quand même massivement. Dans le monde artistique,
ils se droguent.
Dans le monde économique, les gens se droguent. Même dans les classes élitistes, ceux qui font la loi, il y a une consommation de drogue énorme. Il y a une affaire de un sénateur qui a fait du bruit avec de la drogue dans un verre de champagne, etc. Tout le monde le sait.
Rappelez-vous ce que vous disiez de la cocaïne vous-même, que effectivement, c'était aussi répandu d'ailleurs dans des milieux ouvriers, dans des milieux
populaire.
Que c'est plus seulement la drogue de la pub et...
Qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne m'avez pas répondu.
Mais juste, parce que vous ne pouvez pas mettre...
Vous ne
pouvez pas mettre toutes les drogues dans le même sac. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas, si vous pensez... C'est comme si vous voulez...
Je mets de la même manière que je mets le whisky et le rhum dans le même sac.
Permettez-moi de vous poser une question.
Je suis désolé de vous dire, toutes les alcools... En ça, c'est parce que vous fumez peut-être de temps en temps un petit pétard et ne prends pas de drogue.
D'abord, ça ne vous regarde pas.
Je suis d'accord avec vous. Je vous donne un exemple.
En Angleterre, j'aimerais avoir votre avis parce que pour moi, c'est une loi terriblement liberticide. Il y a une loi, je ne sais pas si elle est complètement passée, qui décide que les gens nés à partir de, mettons, dans 2 ou 3 ans, n'auront plus le droit de fumer du tabac.
Oui.
C'est-à-dire, ils sont sympas, ils ne veulent pas, je veux dire, sevrer d'un coup tous les gens qui fument. Donc, si vous voulez. Mais est-ce que vous croyez vraiment... Est-ce qu'on a réussi à faire une société sans alcool aux États-Unis ? Est-ce que vous croyez qu'on va réussir à faire une société sans tabac ? La question, c'est que vous avez des drogues extrêmement dangereuses aujourd'hui. Le crack, c'est plus... Mais écoutez,
la drogue,
c'est
ça désocialise.
Mais tout est... Je vous assure, en fait, ça me rend...
C'est pas le même danger.
Elisabeth, pardonnez-moi, mais...
Elisabeth a raison.
Vous savez, je déteste m'énerver. Ce n'est pas mon genre.
Non,
pas du tout. Le cannabis, c'est... La drogue, comment dire, ce sont des ravages absolus.
Je suis content.
Absolus. Donc je mets le cannabis comme le crack dans le même sac.
Je suis désolé de vous le dire.
Et ben vous n'y arrivez pas. À l'égard du Nord, pour voir les crackers, pour voir que c'est pas la même chose.
Crackers, bonhomme.
C'est quand même pas les mêmes effets.
Ben non, bien sûr que non.
Il faut. Non, vous avez raison.
Mais non, mais vous commencez déjà.
Le cannabis peut avoir des effets psychosociaux absolument redoutables.
Et neurologiques.
Et notamment sur des jeunes, ça c'est incontestable.
Vous commencez à finasser.
Pierre Palmade, c'est pas du cannabis, quoi.
Mais laissez Pierre Palmade où il est, vous finassez. Bon.
Je voudrais quand même vous dire,
750 euros, c'est un homme qui m'envoie, il s'appelle Reynald, il m'envoie ce petit texto, très juste. 750 euros d'amende si vous promenez votre chien sans lait, sans forêt, et 135 euros d'amende pour un consommateur de drogue, chercher l'erreur. Il a raison.
Eh bien, l'erreur, je vais vous la dire.
Il a raison.
L'erreur, c'est que la consommation de drogue, elle est privée, elle est chez vous, et qu'on ne va pas mettre un flic dans chaque maison.
Enfin, ni dans les forêts quand même. Hein.
Ni dans les forêts d'ailleurs. Donc comment voulez-vous l'histoire
vous,
des conservateurs.
Pardonnez-moi, quand vous fumez de la drogue chez vous, vous avez du sang sur les mains.
D'accord.
Vous en, okay. Je suis désolé vous de vous le dire. Vous encouragez des filières.
D'accord.
Vous avez raison.
Vous êtes un criminel.
D'accord.
Sauf si vous l'êtes dans votre jardin.
Mais vous êtes un criminel. Je suis désolé de vous le dire, Philippe Guibert. Oui, vous êtes un criminel. Si vous fumez un pétard, et ça, c'est ce qu'avait dit Monsieur Dupond-Moretti, et il n'a pas tort.
Mais
parce que le gosse de 14 ans,
ça sert à quoi
de criminaliser ceux qui fument.
Et donc, comme vous ne pouvez pas l'attraper, ça sert à quoi? On se plaisir en disant ça.
Ah non, parce qu'on peut, on peut prendre des sanctions. Mais je suis désolé
de
vous le dire.
Vous allez chez les gens, dring, avec le policier.
Exactement.
Bonjour monsieur,
non,
on va vérifier.
On va pas aller chez les gens, mais le jour où tu en chopes un qui est
ville. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Quelqu'un qui achète de la drogue, il finance un réseau qui fait couler du sang, qui fait acheter des armes, qui tue des gens.
Exactement.
Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'hygiénisme. Moi, je ne reproche pas à un consommateur de drogue de nuire à sa propre santé. C'est comme pendant le coronavirus.
Je suis d'accord avec vous.
Les politiques d'hygiénisme d'État, c'est extrêmement dangereux.
Je suis à 100% d'accord avec vous.
Demandez ce qu'il faut faire. Moi, je veux dire, ce que je faisais à l'époque, j'ordonnais des injonctions thérapeutiques.
Ah, ça,
obligation de soins.
Ça,
il était obligé d'aller voir un médecin. Après, le médecin me disait non, il n'est pas vraiment toxicomane, on laissait de côté. Mais pour celui qui était accro, il y avait une injonction de soins.
Grande fin.
Et s'il n'y allait pas, là, il encourait l'incarcération.
On change de sujet.
C'est quand même étonné d'être le seul sur le plateau à avoir goûté un pétard, quand même. Je sens un peu d'hypocrisie sur le plateau.
Non, mais moi, j'ai dit oui.
Non, elle a dit oui.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Écoutez, quand j'avais 20 ans, vous avez à peu près le même âge, c'était déjà une consommation qui commençait, non pas à être courante, mais qui était loin d'être marginale.
Oui, mais
vous savez l'endroit où j'ai vu passer le plus de cannabis?
Non.
C'était dans une caserne au service militaire. Donc, et c'était dans les années, à la fin des années 80, donc on découvre un peu la lune aujourd'hui.
Vous avez fait l'armée, vous?
Ben oui. Vous ne l'avez pas fait, vous?
Vous avez fait le service militaire?
Absolument. En 1988, cher monsieur.
C'est intéressant, ça. Vous avez fait le service militaire?
Et vous n'avez pas fait...
Il n'a pas fait son service militaire.
Ils n'ont pas voulu de vous
Y5.
Vous avez trouvé la solution pour vous faire réformer?
Mais non, je ne voyais rien. Je suis Y5. Ils m'ont dit, tu vois la lettre? J'ai dit, quelle lettre? La lettre qui est sur le panneau. Le panneau qui est sur le mur.
Et au BIDAS, on donnait des troupes.
Je ne vois pas, moi. J'ai dit Y5.
Mais non, c'était fini, ça.
Je voulais, moi.
Oui, oui, bien sûr.
Ils n'ont pas voulu de moi.
C'est ce qu'on dit.
Donc, le plus grand lieu de trafic, c'était une caserne.
Oui. Enfin, oui, mais visiblement, le niveau de cannabis n'était pas aussi dangereux qu'il l'est aujourd'hui, c'est ce que disent... Voilà. Bon, nouvelle tragédie à Grande-Synthe, vous le savez, un adolescent de 15 ans, cousin d'un des deux mineurs mis en examen vendredi pour l'assassinat de Philippe Kopmann, a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi dans la même commune. C'est très intéressant d'ailleurs, Grande-Synthe, parce que j'ai entendu le maire de Grande-Synthe. Évidemment que ce qui lui importe surtout, ce maire, quand
c'est
tu l'entends... Droite. Voilà, c'est extrême droite.
La récupération politique.
Voilà, c'est surtout ça qui lui importe à ce maire. Bon, inquiétude...
Il est soucieux de la paix sociale dans son cas, dans sa ville.
Il est peut-être soucieux de sa réélection, surtout.
Et de son image.
Peut-être.
Arrive pour tous les maires de
ville. Peut-être. Ben oui, peut-être. Pas et c'est ça qui...
Pas n'importe quel point.
Inquiétude et sécurité, écoutez Tangred Guillotel.
Des voitures de police qui patrouille dans Grande-Synthe. Après une nouvelle agression ce week-end sur le cousin de l'un des deux mineurs mis en cause dans le meurtre de Philippe Kopmann, le préfet du Nord a demandé à la police nationale de renforcer le dispositif de sécurité dans la ville. Sur place, les habitants sont plus ou moins inquiets.
Peur, oui, mais bon, après, faut continuer à avancer, quoi.
J'ai vu, c'est Grande-Synthe, c'est une très belle ville, c'est très beau, mais Grande-Synthe, on a peur.
Non, j'ai pas peur. Et puis dans la ville, moi, je n'ai rien remarqué. Ça paraît relativement calme. On en parle, mais il n'y a pas une psychose qui s'installe.
Une psychose contre laquelle le maire de la ville a mis en garde ce week-end dans un communiqué.
C'est le temps du recueillement et de l'apaisement qui doit prédominer. Je demande solennellement à la population de ne pas céder à une certaine forme de peur, voire de psychose qui pourrait prendre le dessus dans ces moments difficiles.
Et pour certains habitants, un couvre-feu pour les mineurs serait une solution pour réduire la violence.
Je trouve pas normal que les enfants de cet âge-là, ils sont dehors.
Moi, ce serait bien, un couvre-feu pour les mineurs.
Selon les derniers éléments fournis par la procureure de Dunkerque, il n'est pas encore possible de conclure de façon fiable sur le mobile de l'agression sur cet adolescent de 15 ans ce week-end.
Là, je sens en pleine forme. Non, mais c'est intéressant, les réactions politiques.
Le déni, le noyage un peu de poisson, on a l'habitude, non?
Bon, une petite... Non.
Madame Toraval, elle n'est pas sur ce
registre. Non, mais comme Thierry Châtillon l'était petit peu. C'est-à-dire, il faut surtout pas trop nommer les choses qu'il fait.
Il s'est excusé, le maire de Thierry Châtillon, parce qu'il avait qualifié les tueurs de Chemseddine d'animaux. Alors après, il est revenu dessus en disant qu'il s'excusait, etc., qu'il ne fallait pas avoir un langage outrancier.
Je fais juste un petit insert. Je disais criminel tout à l'heure, et il y a quelqu'un, à juste titre d'ailleurs, qui me dit 21 sur 27 pays européens ont légalisé le cannabis. Donc il y a 21 pays criminels sur 27 en Europe. La remarque est intéressante.
Je demande à voir 21 pays. Alors là, vous me la prenez.
Bah, 21 pays, sauf erreur de...
Là, il va falloir vérifier ce chiffre.
Non, il y en a, c'est le cannabis thérapeutique.
Le cannabis médical. 21 sur 27 européens.
Médical, attention.
Mais c'est quoi le cannabis médical?
Ça des vertus thérapeutiques pour certaines souffrances.
Non, mais c'est vrai, on dit aux malades du cancer de
ça, je dément totalement.
Ce qui est vrai, c'est qu'on a une des législations les plus dures en Europe sur ce sujet.
Et ça marche pas du tout.
Et le plus de consommateurs.
Ça marche pas du tout.
Bon, Gabriel Attal. Alors, Gabriel Attal, tout à l'heure, je soulignais cette volonté quand même de faire changer les choses. Alors, c'est vrai que Gabriel Attal a parlé quand même d'entrisme à l'école et de la charia.
De charia.
Non, mais vous imaginez le chemin parcouru. La charia à l'école. C'est-à-dire que celui qui disait ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, je l'ai dit vendredi, je vais le répéter, c'était Éric Zemmour. Et c'était le seul.
Manuel Valls, après les attentats de 2015, a dit aussi des choses très claires.
De charia dans les écoles.
Charia dans les écoles.
C'est totalement inédit pour un Premier ministre.
Jamais j'ai entendu ça, Philippe. Jamais j'ai entendu ça. Donc il y a quand même une prise de conscience.
Oui.
Par exemple, Emmanuel Macron, il n'est pas sur cette ligne-là. J'ai jamais entendu parler de charia.
Vous avez raison,
Nicole Belloubet, je n'en parle même pas.
Ah bah alors ça.
Attal ne tourne pas autour du
sauvage...
coup.
Il parle même d'ensauvagement maintenant. Mais
il y a eu des sondages qui montraient que les jeunes mettaient la loi religieuse devant la loi de la République.
Emmanuel Valls parlait d'apartheid pour expliquer ce qui se passait.
Exactement.
Gabriel Attal, il a une qualité, il comprend l'air du moment. À chaque fois, il comprend, pour reprendre une expression de Gilles William Golnadel, ce que veut le public. Il comprend ce que veut entendre le public.
Oui, il est de...
Je ne suis pas sûr qu'il... Après, vous pourriez en parler, par exemple, avec Amine El-Khatmi, qui l'a bien connu à une autre époque, qui est maintenant conseiller auprès de Valérie Pécresse, sur la laïcité en privé. Il tenait le discours inverse, il y a quelques années.
Il a pu changer.
Dans son livre.
Alors là, il vient d'arriver, malheureusement. Mais ce qui est vrai, c'est très intéressant, le monde que nous vivons. Évidemment que l'image est forte. Évidemment que Gabriel Attal est doué. Évidemment que son charisme personnel fait la différence. Et de l'autre côté, il y a, j'ai envie de dire, une star qui est en train... Star is born, c'est Jordan Bardella. C'est-à-dire que son accueil ce week-end, c'est une rock star aujourd'hui. Donc vous avez
vu déjà au Salon de l'Agriculture dans les foires.
Donc vous avez deux jeunes gens qui, au fond, sont les mêmes en termes de com', en termes d'image, en termes de présence, etc.
Et de génération.
Et qui ont pourtant, évidemment, des idées opposées. Mais les deux sont en train de réussir, j'ai envie de dire, presque pour les mêmes raisons.
28 et 34 ans, méfiez-vous de la jeunesse.
Quasiment pour les mêmes raisons.
Méfiez-vous de la jeunesse.
Donc après, les uns et les autres choisiront. Mais vous voyez bien que la puissance de l'image, la force de l'image, d'abord, ils ont plein de points communs. En fait, quand je dis c'est les mêmes, ils sont sympathiques tous les deux. On pense qu'on en veut, mais ils sont doués tous les deux. Ils sont jeunes tous les deux. Ils sont beaux garçons tous les deux, ça compte. Il faut le dire quand même.
C'est des professionnels de la politique.
Le spectre politique quand même.
Pardon ?
Il ne s'agit pas simplement d'un duo ou d'un duel entre deux jeunes hommes. La politique française, c'est quand même plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué, mais ça s'appelle l'incarnation. C'est ce qui manque chez les Républicains.
Ils sont dans l'air du temps, l'un et l'autre.
C'est intéressant.
Alors la pause.
Ces deux professionnels de la politique qui n'ont pas eu de vie dans le secteur privé.
Bien sûr.
La pause. Et après Emmanuel Macron, on veut encore plus jeune que lui. C'est quand même étrange. Moi, je pensais naïvement qu'il y aurait un retour à... un désir de quelqu'un qui a plus d'expérience qu'Emmanuel Macron.
Regardez l'expression que de ce plateau, le changement de génération que Gauthier Lebret et Nathan Devers vous incarnez.
De la jeunesse.
Alors évidemment, il fait de la résistance.
Ça bouscule.
Beaucoup de téléspectateurs nous disent avec Nathan Devers, vente fraîcheur.
Et il dit, attention, il a bien vu le danger pour les LR, bien sûr. Mais bon, ils sont là.
La jeunesse, c'est une question d'esprit.
Oui, d'accord, ok. Mais c'est pas vrai, d'ailleurs.
L'état civil.
Mais c'est pas vrai, je suis désolé. désolé, quand t'as 30 ans, t'as pas les mêmes. Quand t'as 30 ans, t'as pas les mêmes énergies que quand t'en as 75.
Et surtout, t'as pas le même temps.
C'est la vie.
On peut avoir 20 ans et être très vieux dans sa tête.
Avoir rien. Allez, la pause, s'il vous plaît.
Transmania, Marguerite Stern est avec nous, bonjour. Bonjour. Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre que vous dénoncez dans ce livre. Mais ce qui est intéressant, c'est votre parcours, puisque vous êtes une ancienne fémène, fondatrice du mouvement des collages contre les féminicides. Alors je ne dirais pas que vous êtes une fémène repentie.
Vous voulez que je réagisse à ça? Non, je ne suis pas une fémène repentie, c'est juste une époque de ma vie qui est quand même maintenant assez loin derrière moi. Et donc en effet, j'ai créé le mouvement des collages contre les féminicides en 2019. Et puis en 2020, début 2020, j'ai vu que ce mouvement commençait à être parasité par l'idéologie transgenre, avec des femmes qui détournaient cette esthétique pour coller des messages comme « une femme trans est une femme ». Moi, féministe depuis 10 ans, j'ai constaté que finalement, les femmes trans, c'est-à-dire des hommes, étaient soudainement devenues l'objet principal du féminisme. Et ça a commencé à me déranger. Donc j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Ça fait 4 ans que je m'oppose à l'idéologie transgenre. J'ai écrit ce livre avec Dora Mouto, qui elle aussi s'oppose à l'idéologie transgenre depuis 4 ans, qui elle en fait a un parcours de féministe aussi, qui avait un compte sur la sexualité féminine très suivi sur Instagram, et à qui on est venu expliquer que désormais il fallait parler de pénis de femme. Donc elle aussi a réagi très vivement. Et voilà, au bout de 4 ans sur ce sujet, on a décidé de formaliser finalement notre pensée dans un livre. Donc c'est une grande enquête qu'on a menée sur 1 an, dans laquelle en effet, voilà, on dénonce les dérives de cette idéologie.
Et c'est intéressant parce que d'abord, ça demande beaucoup de courage, ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de conséquences. C'est des sujets, immédiatement, on est catalogué, on vous traite de transphobe, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc on voit bien la société avec ses minorités actives qui, dans tous les domaines de la société, font peser sur ceux qui prennent la parole des menaces, une peur, etc., etc. Alors, on va en parler dans une seconde, mais il est 10h01, c'est Isabelle Piboulot qui nous rappelle les titres.
Le chanteur Kenji Girac, grièvement blessé par balle au thorax cette nuit à Biscarrosse dans les Landes, hospitalisé à Bordeaux, son pronostic vital n'est plus engagé. Les gendarmes ont été prévenus vers 5h30 alors que l'artiste de 27 ans se trouvait sur une aire de la communauté des gens du voyage. À ce stade de l'enquête, aucune piste n'est écartée. Le Premier ministre en déplacement à Nice pour inaugurer un internat éducatif. Sur la base du volontariat, la structure accueillera des élèves en décrochage scolaire pendant les vacances et leur proposera des cours de soutien, le tout sous l'autorité de policiers et gendarmes, un moyen d'enrayer la délinquance des mineurs en leur évitant l'isolement et les mauvaises influences. Enfin, l'homme d'origine iranienne soupçonné d'être entré dans le consulat d'Iran à Paris vendredi va être jugé cet après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel. L'expertise psychiatrique réalisée au cours de sa garde à vue n'a pas relevé de troubles du discernement. Une enquête avait été ouverte pour menace de mort, matérialisée par le port d'un gilet factice représentant des explosifs.
Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, on va en parler assez longuement. La dernière actualité est intéressante quand même. La mairie de Paris s'est opposée à la promotion sur des panneaux publicitaires du livre Transmania, le vôtre, interpellé par le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Jean-Claude Decaux, d'y avoir déjà procédé au retrait des affiches, affirmant que le visuel est également contraire à notre charte de la déontologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la mairie de Paris interdit la promotion de votre livre ?
Eh bien, la mairie de Paris, et on en parle dans notre livre, a certaines incohérences avec les associations trans. La mairie de Paris finance certaines associations trans qui font par exemple la promotion des bloqueurs de puberté, qui veulent qu'on reconnaisse le mégenrage comme une violence. Donc je rappelle ce que c'est.
Le mégenrage.
Donc le mégenrage, en fait, c'est quand vous dites à une personne trans, par exemple, un homme qui veut devenir une femme, vous continuez à l'appeler monsieur, vous le genrez au masculin. Donc ça, par exemple, ça devrait être reconnu comme une violence. Enfin bon, bref. La mairie de Paris finance un certain nombre d'associations idéologues comme ça, qui ne sont pas toujours très clean. Donc on pense qu'il y a peut-être eu des pressions aussi exercées à leur encontre. On a vu plusieurs militants pro-trans s'adresser directement à la mairie de Paris pour lui demander de réagir. Et nous, on n'est pas surprise par cette réaction. En fait, ça fait 4 ans que nous, on subit des choses, de la censure sur les réseaux sociaux. Dora a perdu tous ses contrats. Moi, je me suis pris des œufs dans le visage en manifestation.
Parce que Dora faisait, quand vous dites qu'elle a perdu tous ses contrats...
Dora était influenceuse sur Instagram, donc elle travaillait avec des marques. Et petit à petit, en fait, toutes les marques ont annulé ces contrats avec elle parce que Dora a commencé à dire que les femmes sont des femelles, qu'être une femme est une réalité biologique, qu'on ne veut pas d'hommes sur les podiums sportifs féminins, enfin des choses quand même de base sur lesquelles on devrait tous pouvoir s'entendre. Et donc, à cause de ça, oui, elle a perdu tous ses contrats. Donc, en fait, cette censure, cette violence, nous, ça fait 4 ans qu'on l'a subie et on n'est pas très surprise qu'elle s'exerce à l'encontre de notre livre dans le cadre de cette campagne de promo. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que on est censuré d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un véritable intérêt pour le livre, en fait. On est numéro un des ventes sur Amazon. Amazon a été en rupture de stock. Tout le monde se jette sur la Fnac. On est numéro un sur la Fnac. Enfin, c'est ça aussi, c'est que... On veut peut-être cacher certaines informations qu'il y a dans ce livre qui sont peut-être choquantes, mais on remarque que le public a un intérêt pour ces informations.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là ce matin. Mais alors c'est la question rituelle que je pose à chaque fois sur ce type de livre. Est-ce que vous êtes reçu dans l'espace médiatique ?
On a quand même été reçu à un certain nombre d'endroits, mais on sait que, par exemple, sur le service public, ça risque d'être compliqué. Voilà. Pourtant, récemment, Adèle Van Delrette a déclaré qu'elle recevait tout le monde. Voilà.
C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu Adèle Van Delrette dans l'émission C'est médiatique sur le service public, mais c'est, je vous assure, ce qui se passe dans le service public, c'est incroyable. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est sidérant. Parce que c'est combien de personnes, ça concerne combien de personnes par exemple? C'est des minorités actives en France. De personnes sont des militants
Alors des militants, on ne sait pas, ça c'est difficile à quantifier, mais en tous les cas, le nombre de personnes transgenres en France, selon le ministère de la Santé, c'est entre 20 000 et 60 000 personnes. Donc oui, c'est une minorité, mais c'est quand même une minorité grandissante. Et nous, ce qu'on dénonce dans le livre, c'est que on parle d'idéologie. Et l'idéologie, ça va bien au-delà des personnes qui transitionnent.
Bien sûr, bien sûr, c'est pas le problème de... Parce que il y a... Bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais moi, je vous assure... C'était donc vous n'avez pas été reçu sur France Inter, vous n'avez pas été reçu dans l'émission de Léa Salamé, vous n'avez pas été reçu dans l'émission C'est dans l'air, ni C'est à vous, ni
sur quelle époque? Oui, face au premier maire France de France.
Il y a un an et d'ailleurs elle est mise en examen pour avoir donc mégenré cette personne.
Qu'elle l'a appelée.
Parce qu'elle l'a qualifiée. Oui, elle est mise en examen.
Délit, mais c'est un délit qui existe dans notre.
C'est incroyable, je vous assure. C'est.
On verra.
Mais quel est l'enjeu de discrimination peut-être.
Comment mais. Non, mais il y a un lobby. C'est un des lobbies les plus terribles. Et l'enjeu, nous, on a publié des articles de Jérémy Staub. Il y a quand même un financement par des milliardaires internationaux d'associations. Et il y a une espèce de propagande qui s'exerce sur les jeunes. Je ne sais pas, vous avez parlé aux adolescents autour de vous. Vous expliquez tous que c'est tout à fait normal de changer. Et donc, si vous voulez, dans les véritables cas de dysphorie de genre, moi, je suis tout à fait... Pour des adultes, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est la façon dont on endoctrine les gamins à l'école. Et ça, si vous voulez, ça inquiète.
Justement, je
pense pas qu'on endoctrine les gamins à l'école, pour tout vous dire, mais je pense en revanche que la censure, elle existe. Et la preuve, c'est que Mme Stern n'est pas reçue sur le service public.
L'endoctrinement à l'école. Alors, l'endoctrinement, il est surtout sur les réseaux sociaux, avec un problème de contagion sociale, avec d'influenceurs trans. Voilà. Mais à l'école, il y a quand même un certain entrisme de l'idéologie transgenre. Avec des manuels scolaires qui parlent de sexe assigné à la naissance, d'identité de genre. Il y a aussi des associations idéologues qui interviennent comme
l'association. C'est-à-dire qu'il y a un manuel scolaire qui dit sexe, c'est écrit noir sur blanc ce que vous dites.
Il y a des manuels scolaires
assigné à la
Nathan et Bordas qui vous parlent avec ce type de terminologie, oui. Il y a aussi des associations idéologues qui interviennent à l'école, comme l'association Règles élémentaires, par exemple, qui vient faire de la sensibilisation sur la question des règles et qui parle aux enfants de personnes menstruées. Donc, il y a quand même un entrisme dans l'école.
Bon, moi évidemment, je condamne les insultes et les violences que vous subissez. Et je trouve ça important de débattre. J'ai commencé à lire votre livre quand j'ai appris. J'ai pas eu le temps de le lire en entier parce que j'ai appris hier soir que vous étiez là ce matin. J'ai été très très choqué par votre livre parce que vous. Quelle est la méthode de votre livre? En tout cas, le début, j'ai lu une centaine de pages. Vous prenez un personnage qui s'appelle Robert, qui est un adulte. Hein, d'ailleurs, c'est pas un enfant. Dont vous dites que c'est un archétype. Donc vraiment, vous dites, c'est pas une personne réelle, c'est un archétype de personne trans, Robert, qui décide de devenir une femme, qui s'appelle de mémoire Catherine ou qui change de nom, et vous lui associez tous les stéréotypes les plus caricaturaux qu'on peut associer à son parcours. On peut imaginer, hein, si on fait ça sur une autre minorité, on prend un archétype, c'est une méthode de travail. Je ne sais pas, imaginons qu'on écrive un livre en disant on va prendre David qui va être l'archétype du juif et on lui balance comme ça tous les stéréotypes et on l'insulte. Il y a une partie de votre chapitre qui s'appelle Robert, tu fais chier, etc. Et vraiment, et moi je le lisais en numérique, je surlignais au début les insultes et les violences qu'il y avait contre cet archétype. À un moment, j'ai arrêté parce qu'il y en avait en fait à chaque page, alors, voire deux fois par page, sur des pages numériques en plus qui sont des petites pages.
Donc pour vous répondre, non, il n'y a pas d'insulte par contre.
Robert, tu fais chier. C'est une insulte.
Oui, bon, faut.
Je les ai, hein, oui.
Détendre un peu, quoi. Mais juste pour expliquer au lecteur, donc en effet, c'est un procédé d'écriture qu'on a utilisé, étant donné que le livre fait 400 pages, il est très dense, il y a 35 pages de sources à la fin, c'est extrêmement documenté, c'est très dense. Et donc pour alléger un peu la lecture, on a utilisé ce procédé narratif où voilà, tout au long du livre, en fait, on suit en effet les aventures voilà, de cet archétype. Cet archétype, on l'explique bien au début, il est inspiré de faits réels, d'hommes réellement qui raflent des compétitions sportives de femmes. Hein, il y a eu plus de 600 hommes actuellement qui ont remporté des compétitions sportives féminines, des hommes qui se disent femmes. Il y a aussi des hommes qui vont agresser des femmes en prison parce qu'ils se disent femmes, donc ils sont incarcérés dans les quartiers pour femmes et ça donne des viols.
Mais dans toutes les minorités.
Non mais en fait, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et alors nous, ce qu'on revendique, c'est aussi le droit à la caricature. Et on pense qu'on ne viendrait jamais dire, par exemple, aux journalistes de Charlie Hebdo, vous n'avez pas le droit de vous moquer. Enfin, en tous les cas, il ne faudrait pas dire à ces journalistes-là, vous n'avez pas le droit de faire usage de la caricature. Nous, on fait usage de la caricature, on le revendique et on pense qu'on a bien le droit, en fait. Quand on efface, on se moque quand même gentiment de personnes qui nous harcèlent, qui commettent des violences, qui appellent à tuer les femmes comme nous, on a le droit d'user de quelques petites moqueries.
La caricature, bien sûr. Et moi, je ne suis pas sur le terrain de la liberté d'expression. Mais là, d'abord, vous vous moquez de ce que cette personne est, pas de ce qu'elle fait, de sa sexualité, etc., de ce qu'elle regarde comme porno. Et puis, juste, par exemple, il y a une page, moi, qui m'a marqué. C'est quand vous parlez du transgenrisme et que vous dites, parmi les 10 commandements du transgenrisme, tu t'infiltreras dans toutes les strates de la société. Alors, dans ce cas-là, on fait juste, on imagine, comme sur Word, éditer, rechercher, remplacer. Imaginez qu'on écrive un livre en disant « Le judaïsme, tu t'infiltreras dans toutes les strates de la société ». C'est une rhétorique qui, excusez-moi, n'a rien à voir. Il y a des gens comme Caroline Eliashev qui a critiqué le genre. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle, mais enfin, il y a des arguments, on peut discuter, etc. Là, j'ai trouvé, en tout cas sur les 100 premières pages, je n'ai pas lu la suite, je les lirai peut-être, mais j'ai trouvé qu'on n'était pas dans l'argument, qu'on était dans l'insulte.
Lisez la suite, justement, parce que vous verrez que ce livre, en fait, est une démonstration pleine et totale du fait que, oui, l'idéologie transgenre s'infiltre dans toutes les sphères de la société, dans les sphères économiques, dans les sphères de pouvoir, en politique, dans les universités, dans les écoles, dans les médias, dans les grandes entreprises.
Alors, je vous ai laissé parce qu'on dit parfois que j'interviens trop. J'ai décidé.
J. Caroline, bon.
Mais moi, souvent, ce qui m'ennuie le plus, c'est la lâcheté, notamment dans l'entreprise. C'est ça qui me frappe aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes directeurs de marketing, parfois, etc., qui ont un niveau de culture que je peux remettre en cause, ils lâchent tout de suite, quoi. Ils ne se battent pas. Donc, ils sont soumis aux minorités actives et ils baissent pavillon immédiatement. Donc, ils acceptent.
Mais il y a eu la circulaire Blanquer à l'école.
Exactement.
Quand même.
Alors, je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance et on reviendra tout à l'heure à cela. Mais je voudrais quand même qu'on fasse juste la parenthèse Rima Hassan, puisque la militante franco-palestinienne Rima Hassan, 7e sur la liste insoumise aux élections européennes, a été convoquée vendredi par la police pour apologie du terrorisme. Et elle a aussitôt dénoncé des manœuvres purement politiciennes. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre. Et il se trouve qu'elle était à Marseille ce week-end et qu'effectivement, on voit bien qu'en France, il y a des soutiens très forts à la cause palestinienne. Voilà.
C'est pas pour rien que la France Insoumise fait ça.
Voilà. Je ne vais pas le dire autrement. Certains disent qu'il y a sur notre territoire deux peuples. Je ne le dirai pas.
Ce qui est un terme discutable.
Oui, bien sûr, c'est un terme discutable. Mais regardez cette séquence. Donc Rima Rima, Marseille est avec toi, des drapeaux palestiniens sur le sol de France. Bon, on suit quand même...
Non mais c'est pas, le problème c'est que c'est pas des drapeaux palestiniens, c'est, si vous voulez, ils ont déshonoré la cause palestinienne en la collant à celle du Hamas. Si vous voulez, on a le droit de défendre le peuple palestinien. C'est, si vous voulez, ces gens-là détestent les Juifs. D'abord, c'est le sous-texte, même s'ils ne le disent pas. Et, enfin, beaucoup de ces gens-là, pardon, il ne faut pas non plus... C'est vrai. Et surtout, c'est ce que vous rappelez, ce que disait Bernanos, que Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. Eux ont déshonoré la Palestine. Voilà, ils ont déshonoré la cause.
Bon, est-ce que je peux juste faire remarquer qu'en France, les manifs pro-palestiniennes ont été... en nombre beaucoup moins importante qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, par exemple.
C'est vrai.
Y a des, à Londres ou à Berlin, vous avez eu des centaines de milliers de gens qui ont défilé.
Londres est devenue une zone de non-droit, enfin de non-accès pour les Juifs, selon
alors,
le gouvernement.
Ce que en je trouve intéressant, c'est de mettre cette séquence-là avec ce qu'avait dit ce jeune qui avait interpellé Emmanuel Macron. Moi, ça m'avait vraiment fortement marqué. Ce jeune qui avait dit, Monsieur le Président, intervenez sur Gaza, c'est ça qui peut mettre le feu aux banlieues. Ouais. Lui-même, ce jeune, reconnaissait qu'il y avait dans les banlieues...
L'importation.
Bien sûr. L'importation. Et que les banlieues pouvaient être porte-drapeau de la cause palestinienne. Il le disait lui-même, alors que parfois, c'est dénoncé par...
C'est une réalité. Hein.
Bien, oui, ben c'est, alors lui, c'était un jeune qui le disait de l'intérieur. Écoutez cette séquence.
C'est un petit peu dommage que vous n'agissez pas plus concrètement.
Mais monsieur, on agit
comme le font certains autres pays.
Mais qui
écoutez, du moins au moins l'Afrique du Sud, qui a renvoyé, renvoyé l'ambassadeur.
Est-ce que vous pensez que c'est un acte qui aide les gens?
Pas du tout.
La France n'est pas sur la ligne et n'aura pas la ligne de l'Afrique du Sud. Parce que les termes qui ont été employés, les actions de justice internationale, ne correspondent pas non plus à la vérité sur le terrain.
Donc vous préférez laisser faire des massacres?
Non, on sait tout qu'on y lutter de manière concrète. Mais après, pardon de vous le dire, mais nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont ceux de la diplomatie, de l'action humanitaire. Et je ne peux pas vous laisser dire que l'action qui est faite par nos humanitaires, par notre armée et tout ce qui a été fait par la France,
c'est très respectable.
On a une position claire.
Vous avez bien fait. Non, non, excusez-moi, laissez-moi au moins terminer. Parce que si vous. Ça s'appelle la courtoisie, du moins.
J'ai été très courtois, peut-être même plus que vous.
Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'ai été content quand même. Mais je vous appelle, je dirai. Plus me répondre, monsieur le président.
Mais non, mais on ne va pas faire une conférence, vous n'êtes pas d'accord avec vous véhiculez parfois des trucs un peu.
Écoutez, c'est ce qui peut faire déborder aujourd'hui les cités, monsieur le président. Malheureusement, vous ne faites rien à ce sujet.
Mais je ne peux pas vous laisser dire.
Ah, si, monsieur le président.
Ah, si. Alors après, si vous avez. Ce qui fait déborder les cités, vous savez, tous les gens qui viennent nous sortir les enfants de l'école pour les amener vers les fanatiques.
Ça, c'est une chose.
C'est tous les gens qui empêchent les écoles et les familles de vivre, passer la drogue. C'est ce qu'on fait.
Cet élément-là, le fait de ne pas pénaliser Israël au niveau économique, peut faire déborder les choses.
Et pour moi, c'est la phrase clé, c'est ce qui peut faire aujourd'hui déborder les cités. C'est ça la phrase clé, à mon sens.
Oui, oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas.
L'augmentation des actes antisémites en France, c'est quand même un signal.
Si vous trouvez que c'est pas le cas, moi je veux bien.
Mais ça n'a pas donné lieu à des émeutes comme à la mort de Naël, d'accord?
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Non, mais la rue arabe ne s'est pas non plus embrasée.
Alors, Malika Sorel sur Rima Hassan, elle était hier. Tous ceux qui ont écouté Malika Sorel hier, d'abord, les gens ne la connaissaient pas. Elle était donc sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Tous ceux qui l'ont écoutée ont trouvé extrêmement intéressant ce qu'elle disait. Il ne s'agit pas d'être de droite ou d'être de gauche. Et beaucoup se sont quasiment reconnus, en tout cas adhérés à tout ce qu'elle disait. Voilà, moi j'ai eu 50 000 témoignages depuis hier, parce que en fait, ce n'est plus un discours de droite ou de gauche, c'est un discours de France. Elle parle d'assimilation, voilà ce qu'elle dit. Donc,
Discours de France, c'est déjà un discours de droite. Pour certains.
C'est le discours du Rassemblement.
Bah on l'entend pas à gauche, en tous les cas.
Les frontières.
Mais ce que vous appelez le discours du Rassemblement national, c'était le discours de Gaulle il y a 50 ans, Philippe Guibert. Il y a 70 ans.
Avec une réalité qui n'est pas du tout la même. Mais bon.
C'est ça la vérité.
Qui n'a rigoureusement rien à voir. Je trouve que la comparaison avec De Gaulle est.
C'était la tradition. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on a entendu pendant des générations. Et qu'effectivement, la gauche, effectivement, a oublié. À partir des années 80. Et on voit les résultats.
Qu'est-ce qu'elle a oublié, la gauche?
La gauche, elle a oublié l'assimilation. La gauche, elle a préféré la société multiculturelle. On en voit les résultats.
Elle a parlé d'intégration républicaine pendant des années.
Écoutez, moi, je veux bien qu'on joue sur les mots.
On joue pas sur les mots.
Mais si, parce que vous avez les résultats devant vous. Au moins, dites une chose simple. On a mis à côté.
Oui, ben Georges Fenech peut dire pareil.
On a mis à côté. Tu vois les résultats de la différence.
Qui a été ministre sur toute cette période-là. Je parlais d'intégration républicaine.
La droite et la gauche, Pascal, la droite.
Vous pouvez
gauche.
Dire que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché.
Mais ça n'a pas marché parce que ce qu'on a voulu mettre en place ne pouvait pas marcher.
On a promu le droit à la différence. Au niveau gouvernemental, c'est pas vrai.
C'était un slogan.
Vous rigolez.
Oui, c'était un slogan, mais c'était pas la
slogan.
La politique gouvernementale de la gauche n'a pas été celle-là. Je suis désolé de vous le dire.
Et on va terminer le quinquennat d'Emmanuel Macron avec 5 millions de nouvelles entrées sur le terrain, sur la France. 5 millions de personnes.
Sur le deuxième quinquennat
On va terminer. Ouais, il y aura 5 millions d'étrangers sur le terrain. Moi, je veux bien qu'on puisse intégrer tout le monde. C'est impossible.
Vous avez raison.
Écoutons Malika Sorel. Malika Sorel, et après, on verra ce qui s'est passé à Charonne hier.
Mais c'est évident pour moi que le fait qu'ils mettent Rima Hassan, d'origine palestinienne, sur sa liste, vise un certain électorat et il essaie d'attiser des ressorts de la haine. Quel est le projet politique porté au travers de la figure de Rima Hassan et au travers de ma figure, moi, en tant que aujourd'hui femme politique?
Dites-le nous, tout le monde n'a pas lu l'excellent Kamel Daoud, de quoi s'agit-il?
Deux projets s'affrontent. Vous avez le projet de la repentance et la culpabilisation de la terre d'origine, avec à chaque fois un retour sur investissement, la France n'a pas assez fait, donnez-nous, etc. Et l'importation des problèmes qui se passent dans les pays d'origine sur les territoires français.
Bon, je vous invite à pouvoir réécouter tout ce qu'elle disait hier, si ça vous intéresse.
Sur Rima Hassan, on peut, moi je suis largement en grand désaccord avec ce qu'elle peut dire, mais j'ai trouvé que cette convocation par la police, en pleine campagne électorale, pour des paroles qui ont été dites, ou qui auraient été dites au mois de novembre, 4-5 mois plus tard, est extrêmement maladroite et contre-productive.
C'est Éric Zemmour qui est condamné par la... Je ne vous entends pas.
La
judiciarisation du débat est contre-productive dans tous les sens.
Elle est contre-productive. Elle permet à les filles et à Rima Hassan, je termine juste, de se victimiser. Oui. Et je trouve ça complètement contre-productif. On est dans une démocratie, on ne convoque pas des candidats comme ça par la police en pleine campagne électorale. Je trouve ça.
Non, vous avez raison, François Fillon, il faut aller lui dire.
Mais
on peut faire la même remarque.
En fait, il faut aller lui dire à François Fillon, il faut que vous l'appeliez. Il faut que vous lui disiez. Parce que là, c'était encore plus rapide. C'est-à-dire qu'il y avait un papier dans le Canard enchaîné à 10h.
Donc vous avez tous condamné le PNF et d'avoir fait ça à Fillon. Et maintenant, sur Rima Hassan, c'est normal.
Je ne dis rien, moi. C'est vous qui dites que ce n'est pas normal. Je ne vous ai pas entendu sur...
Rima Hassan, en plus, c'est sur des positions. Ce n'est pas sur des affaires de fric ou d'emploi fictif comme pour Fillon. C'est sur ses déclarations.
Elle a dit que Hamas menait une action légitime.
Critiquons.
Elle a dit que Hamas menait une action légitime.
Critiquons.
Je trouve que c'est pire, si vous me permettez.
Excusez-moi.
C'est pire pour Rima Hassan. Si vous trouvez que c'est... Vous voyez, c'est là qu'on ne peut pas être d'accord. C'est-à-dire que quand Rima Hassan dit que c'est légitime le Hamas, parce que c'est pire effectivement que d'avoir acheté un costume...
Mais elle a vraiment dit que c'était légitime.
Critiquons.
Ça s'appelle l'apologie du terrorisme.
Critiquons ses positions politiques, ne la faisons pas convoquer par la police. Je suis désolé, ça me choque, on est en démocratie.
Mais pardonnez-moi, d'abord, elle n'est pas
convoquée. C'est malvenu.
Il y a des lois. Oui, mais en fait, il y a des lois.
On peut la critiquer politiquement.
Mais ce n'est pas de critiquer, c'est des lois si ça tombe. Mais non, c'est pas...
D'accord,
pardonnez-moi. C'est pas critiquer politiquement. Chaque mot a un sens. Apologie du terrorisme, c'est pas critiquer.
Oui, mais la question.
Non, mais
on peut quand même poser la question.
Si vous trouvez très bien l'apologie du terrorisme, bien à vous.
C'est pas une opinion, c'est un délit.
Philippe met le doigt sur une chose qui est centrale. C'est que, la judiciarisation du débat, ça ne sert à rien et que ça tourne vinaigre. Et que, deux, s'agissant par exemple de Rima Hassan, ce qu'il faut faire, c'est faire ce que vous avez dit, c'est montrer que ce qu'elle fait n'a absolument rien à voir ni avec la cause palestinienne, ni avec l'humanisme de manière
plus générale. Oui, mais alors à ce moment-là.
Quand critique-t-elle, par exemple ce qu'a fait Assad en Syrie.
Moi,
elle est pour la France insoumise qui soutenait les bombardements de Bachar al-Assad sur la population syrienne.
On est en retard. On est en retard parce que nous avons notre invité qui est là. Il nous reste 12 minutes. Donc, je voulais juste parler de Sharon. Samedi dernier, s'est tenue une conférence, une manifestation pour rendre hommage aux victimes de l'incendie rue de Sharon qui a eu lieu il y a quelques semaines. L'occasion pour de nombreuses personnes de la communauté afghane de se réunir. Je m'aperçois que seules deux personnes ont remarqué ça dans l'espace médiatique. Jordan Bardella, manifestation afghane qui dégénère en émeute à Paris. J'en ai assez que notre pays soit devenu le paillasson du monde, le pays où l'on peut se permettre dans l'impunité la plus totale. On peut tout se permettre. Notre engagement premier sera de remettre la France en ordre. Et Marion Maréchal, aucun média n'a diffuser les images, mais des émeutiers afghans ont semé le chaos dans les rues de Paris. Il est temps pour eux de retourner chez eux en Afghanistan. Voyez le sujet de Dounia Tangour, parce que évidemment, ça, personne n'en parle. On veut pas en parler. Sur TF1 hier soir, on n'en parle pas. Sur France 2, on n'en parle pas. Ça s'appelle le...
Par contre, expulser vers l'Afghanistan, c'est juste impossible.
Et c'est ça.
Chez le régime des talibans, ils vont pas laisser passer consulaire.
Ce qui est sidérant, c'est le traitement médiatique. En France, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, vous allez voir le sujet et pensez aux gens qui habitent rue de Sharon.
C'est assez choquant.
Rue de Sharon, à Paris, ce samedi, une manifestation déclarée en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril dernier. Dans les 200 participants, de nombreuses personnes de la communauté afghane. Un cortège commencé pourtant dans le calme et qui a fini par dégénérer à cause des casseurs et sous l'œil des commerçants.
Il y avait plein de gens devant et donc quelques-uns qui voulaient en découdre et jeter des trucs dessus. Ils ont commencé à prendre les tables et les chaises. Et ils ont caillassé le bus, puis notre baie vitrée.
Ils ont commencé à faire du bruit, à taper contre les vitres, sur les poubelles. Ils ont lancé les poubelles contre le bus. Du coup, les policiers ont commencé à gazer la rue. Le seul problème, c'est que les portes étaient grandes ouvertes. Du coup, tout est rentré dans la boulangerie. Nous avons dû fermer les portes d'urgence, faire sortir les clients par derrière.
Du mobilier urbain détérioré et plusieurs vitrines cassées. Toutefois, les forces de l'ordre ont très vite dissipé les fauteurs de troubles. Lors de ces heures, 4 personnes ont été interpellées.
Bon, et pour être tout à fait, pour terminer sur l'affaire Assam, Rima Hassan, on lui reproche précisément une interview au média Le Crayon.
Oui.
D'ailleurs, l'interview a été supprimée depuis, c'est assez intéressant. Donnée après les attaques terroristes du Hamas en Israël. On lui demande, le Hamas mène-t-il une action légitime? Elle répond, vrai. Bon,
ça
s'appelle effectivement de l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas des idées politiques, ça. Ce n'est pas des idées politiques.
Je trouve dommage qu'on ne l'ait pas fait au mois de novembre.
Oui, mais ça, vous avez raison. Oui. Mais ça, ce n'est pas un argument, en fait. Vous faites. Ben non.
Non, mais il y a des délais. Ce n'est
pas parce qu'on ne l'a pas fait au mois de novembre qu'il ne faut pas le faire maintenant.
Oui, il y a des délais.
Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait au mois de novembre qu'il ne faut pas le faire maintenant. Je suis désolé.
On est en pleine campagne.
Mais est-ce qu'on pourrait juste discuter quand même des lois, mais de ces lois?
On ne discute pas. Marguerite Stern est avec nous, Transmania. Il nous reste 9 minutes. Autrement.
D'accord.
On ne va pas parler de cela et ça serait dommage. Alors, ce qui m'intéresse, les 10 commandements, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, la transsexualité en quelques chiffres. Aux États-Unis, 1,6 million de personnes s'identifieraient comme transgenres, c'est-à-dire 0,5% de la population. 18% de la population transgenre a entre 13 et 17 ans. Et c'est évidemment ça qui...
C'est ça qui nous inquiète, c'est-à-dire que la population trans, elle a évolué. Il y a 10-20 ans, c'était davantage des hommes qui transitionnaient sur le tard, la cinquantaine passée. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui veulent transitionner et surtout des jeunes filles. On sait que par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, dans l'unité qui accueille les moins de 20 ans qui veulent transitionner, il y a 68% de filles. Et donc, en tant que féministe, nous, on est très concernés par ça. Et quelle explication est-ce qu'on peut donner à ce phénomène-là? C'est tout simplement le phénomène de contagion sociale, en fait. Donc, être sensible, en fait, à une mode, en fait. On peut résumer les choses comme ça, même si le mécanisme est un peu plus complexe, on l'explique dans notre livre. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais les filles sont beaucoup plus sensibles à la contagion sociale que les garçons. Donc, c'est prouvé par différentes études, comme celle du docteur Bailey. Voilà. Et donc, ce qui nous inquiète, nous, en premier lieu, ce sont donc les transitions médicales des enfants. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, dans nos hôpitaux, on fait transitionner des enfants en leur donnant des bloqueurs de puberté. Bloqueurs de puberté qui vont avoir des conséquences graves et irréversibles sur leur santé.
Mais où sont les parents?
Destruction du squelette.
Ils encouragent.
Empêchement du développement du cerveau. infertilité. Enfin, voilà.
Mais où
c'est
sont
important
les parents
pour nous de parler de cette
où
question des bloqueurs de puberté.
Où sont les parents?
Les parents, malheureusement, on pense que... voilà, ils se... Quand ils voient leur enfant se questionner et dire voilà, je suis en questionnement de genre, leur enfant qui a trop traîné sur les réseaux sociaux, d'ailleurs j'en profite voilà, de le dire aux parents qui nous écoutent, faites attention à ce que vos parents regardent, à ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux. Les parents se trouvent parfois un peu désœuvrés, ne sont pas bien informés en fait sur ce phénomène parce que voilà, c'est vachement un truc de jeunes auquel on a accès sur les réseaux sociaux. Et donc quand les parents amènent leurs enfants en consultation, ils se retrouvent la plupart du temps, face à des médecins dits transaffirmatifs, qui vont donc poser le diagnostic de dysphorie de genre au bout de un ou deux rendez-vous, et puis qui vont commencer à proposer voilà,
une transition médicale. Parce que ce que vous racontez est tellement invraisemblable. Alors, le planning familial, parce que ça m'a sidéré. Dans les années 2000, le planning familial, c'était l'endroit où l'on pouvait se renseigner sur la contraception, les maladies sexuellement transmissibles et l'avortement. En 2024, cette association, qui recevrait, selon le journal Le Point, 2,8 millions de fonds publics chaque année, est désormais un instrument de propagande transgenriste et c'est clairement assumé le planning familial.
C'est clairement assumé dans leur rapport 2020, leur projection 2023-2025 où ils militent voilà, pour qu'on donne des bloqueurs de puberté aux enfants, pour la gratuité des binders par exemple. Donc les binders sont ces brassières compressives qui servent aux jeunes femmes qui se disent hommes trans à voilà, genre, aplatir leur sein. Donc voilà, c'est apparemment la priorité du planning familial désormais de militer pour la gratuité des binders. On sait aussi que le planning familial embauche à tour de bras des médecins pour prescrire des hormones de transition. Nous, on s'en inquiète avec Dora Mouto parce que aux États-Unis, l'équivalent du planning familial, le Planned Parenthood, est devenu le premier prescripteur d'hormones trans du pays. Et dans notre livre, on donne aussi des témoignages de jeunes femmes qui racontent que le planning familial leur a donné de la testostérone au bout du premier rendez-vous, que le suivi s'est ensuite fait par mail, donc on renouvelait les ordonnances par mail, sans aucun suivi en présentiel. Voilà, donc
mais
on
que dit le ministère de la Santé?
On les interpelle, justement. Nous, on a envoyé ce livre à un certain nombre de politiques, de députés, de ministères, pour alerter sur des dérives très graves. On s'inquiète du fait qu'un scandale sanitaire pourrait advenir en France, comme ça a été prouvé, par exemple, au Royaume-Uni ou en Suède, un des pays qui, aujourd'hui, font marche arrière. Personne ne nous a répondu, donc on va essayer de relancer. Voilà.
Incroyable.
Mais par contre, on est plutôt satisfaite de ce qui se passe en politique actuellement avec le projet de loi qui est porté par la sénatrice Les Républicains, Jacqueline Eustache-Brinio, qui donc a déposé cette proposition de loi pour interdire les transitions médicales pour les
mineurs. Et qui fait le job, madame.
Non, on ne peut pas.
Allez-y.
Je voulais vous interroger sur la circulaire de Jean-Michel Blanquer. Qui encourage quand même, oui Pascal, mais c'est important, elle encourage quand même à l'école, elle demande aux professeurs, dès qu'un élève arrive et vous dit « je veux m'appeler comme ci ou comme ça », les professeurs doivent le faire. Ça vous semble sans intérêt ?
C'est très important, mais malheureusement, on est en retard et c'est ce que je voulais vous
comprendre,
parce qu'Isabelle Piboulot est là, il est 10h31.
Ça me semblait important de le rappeler.
Et tout est important d'ailleurs.
Et on en parle dans notre livre, donc
bien
c'est
sûr,
important.
Tout est important, bien sûr, et notamment vos interventions. Isabelle Piboulot.
Oh, vous êtes quand même, vous êtes là franchement, c'est quand même, excusez-moi, mais non.
Si, c'est drôle.
Isabelle.
Le pronostic vital de Kenji Girac n'est plus engagé. Le chanteur de 27 ans a été grièvement blessé par balle au thorax cette nuit à Biscarrosse dans les Landes. Les secours l'ont hospitalisé à Bordeaux après l'avoir retrouvé sur une aire de la communauté des gens du voyage. Face aux gendarmes, une vingtaine de personnes présentes sur les lieux ont minimisé les faits. À ce stade, aucune piste n'est écartée. Le procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice vient de s'ouvrir devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Plus de 2500 personnes se sont constituées partie civile pour cette nouvelle audience. Et puis la patience est de rigueur pour les automobilistes coincés dans les embouteillages ce matin. L'autoroute A13 est toujours fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson en raison d'une fissure au niveau de Saint-Cloud.
Je vous remercie beaucoup. Vous allez revenir, Marguerite, parce que votre livre est passionnant et malheureusement, et c'est le jeu de nos émissions, on a eu tellement d'actualité aujourd'hui avec Kenji Girac, des choses qui n'étaient pas prévues, qu'on n'a peut-être pas accordé le temps qu'on devrait à votre livre. Et la conversation que vous avez eue, la discussion avec notre ami Nathan et la volonté d'Elisabeth d'intervenir dans le débat, à juste titre, d'ailleurs, prouve qu'il y a une demande de questionnement que nous n'avons pas pu tout à fait répondre. Alors, auquel nous n'avons pas pu tout à fait répondre. Dans le monde transhumaniste de demain, le sexe deviendra obsolète, écrivez-vous. Les rapports de séduction entre femmes et hommes n'auront plus lieu d'être, car la norme sera de passer par la procréation médicalement assistée pour se reproduire. Je n'imagine pas quand même que ce soit demain comme ça, mais bon. Et si les avancées technologiques nous permettent de ne plus mourir, on sera là longtemps déjà. Il est même envisageable que la volonté de se reproduire disparaisse et que la sexuation initialement destinée à assurer la perpétuation de l'espèce n'ait finalement plus lieu d'être. Alors c'est possible, mais c'est ni dans 20 ans, ni dans 50 ans, ni dans 100 ans. Vous voyez, c'est... Non mais possible, mais... peut-être, jamais. Peut-être.
En tous les cas, il y a un certain nombre de recherches dans le milieu médical qui sont lancées dans ce sens-là, notamment pour modifier certaines parties du génome qui touchent à la sexuation. Et on sait que les scientifiques commencent à arriver à le faire sur des animaux, avec la recherche aussi sur les utérus artificiels. Donc nous, on se demande en fait si on... Enfin, en fait, on interroge le transgenrisme aussi comme projet politique. Et pour nous, c'est la première étape, l'effacement de la sexuation.
C'est quoi l'idéologie derrière, précisément ? C'est quoi
l'effacement de la sexuation, pour nous, c'est la première étape vers un projet de politique transhumaniste. Et donc, c'est en effet la conclusion du livre, c'est un peu une ouverture, voilà, on s'interroge là-dessus. Et donc, c'est quoi l'idéologie derrière ? C'est ce qu'on décrit tout au long du livre, c'est-à-dire qu'on considère que le sexe n'a pas d'importance, que la biologie n'a pas d'importance, que le sexe est un construit social, comme le stipule le planning familial dans son lexique trans, que finalement, ce qui importe, c'est le genre, c'est-à-dire la construction sociale, l'étiquette sociale, en fait, voilà. Et voilà, c'est ça,
c'est
le
passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Mais là, vous voyez, on est déjà en retard. Je trouve que c'est passionnant.
Nier la réalité biologique et au bout du bout, arriver à une destruction du corps, en fait.
Eh bien, écoutez, vous allez revenir. J'en prends l'engagement parce que lorsque on n'est pas allé comme ça au bout d'un ouvrage, on a envie d'en savoir plus. Et Elisabeth, évidemment, aura toute l'attitude pour vous poser des questions que malheureusement le temps ne permet pas ce matin. C'est chez Magnus.
Ouais.
Je rappelle, Transmania. Deux choses que je retiens. Vous êtes invité nulle part et vous n'avez pas le droit de faire la pub dans Paris.
On a quand même fait quelques plateaux.
Oui, mais dans, je veux dire, les services publics.
On n'a pas le droit de faire de la pub dans Paris. Et puis il y a aussi un phénomène qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'en librairie, nos livres sont mis en réserve.
Ouais,
ils ne sont pas affichés en devanture. Des personnes nous envoient des vidéos pour nous montrer que nos livres sont cachés en rayon.
C'est vraiment passionnant, je vous assure, c'est ça.
Mais bien c'est ça sûr, le plus inquiétant, parce que c'est une forme
quand je
de
disais
censure.
Les directeurs marketing qui ont 30 ans, qui sortent des écoles de commerce, qui ont tellement peur. Et si ça se trouve, l'éditeur, le prochain coup, il dira « je vais peut-être pas éditer ça ». Voilà.
Non, je crois que notre maison d'édition, par contre, le coup,
ça m'étonnerait.
Elle nous soutient.
C'est l'éditeur de Laurent Oberton, donc je pense que tout va bien se passer.
Bon. Et si on l'a choisi, c'est bien parce que vous allez, elle a les épaules.
Vous allez publier quelque chose chez Magnus.
Ah non, rien du tout, c'est juste parce que je connais...
Mais on ne vous a pas beaucoup entendu aujourd'hui.
Ben vous avez vu, Elisabeth Lévy a dit deux phrases et vous la censurez. Alors,
mais j'en
ai dit peut-être trois.
Mais tout à l'heure, j'ai laissé nos amis parler.
Vous avez beaucoup parlé, désolé.
Et voilà, et du coup, on a pris plein de retard. Ben, c'est pour ça, je
vous
assure.
Vous avez laissé parler parce que...
Comment ?
Parce que vous avez fait signe que c'était intéressant.
Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. On m'a dit c'est intéressant. Marine aussi m'a dit laisse parler. Moi, je laisse. Hein, vous savez,
une demi-heure de plus.
Si j'ai droit à une.
C'est pas naturel.
Phrase, on a oublié l'événement le plus important de la journée. Aujourd'hui, Emmanuel Kant est né il y a 300 ans.
Ah.
Il a révolutionné.
Et il y a Pessard aussi.
Oui.
Alors, il faut que je dise Pessard. Dire, parce que ça, c'est extrêmement important.
Oui.
Pessard, c'est fini, me dit Marine. C'est lundi 22 avril, à la tombée de la nuit, débutera Pessard, l'une des plus importantes fêtes du judaïsme. Cette célébration qui doit durer jusqu'au 30 avril commence par un repas, le Seder. Ou le CD, je ne sais pas.
Le Seder, c'est la fête de la liberté.
Eh bien, cette année, la Pâque juive a lieu du 22 donc au 30 à avril, soit du 14 au 21 Nissan de l'année 5784. Je sais qu'il y a beaucoup de nos compatriotes juifs qui nous regardent.
Ouais.
Et sachez qu'on pense à eux et qu'on les aime, bien sûr, en cette journée de Pessard. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Et nous revenons ce soir. Bonne journée. Allez.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.